Katia Beach.
Le cœur n'était pas à la fête nationale célébrée hier. La présidente de la Confédération était sur la prairie du Grutli, au bord du lac des Quatre Cantons. Karine Keller-Souter a souligné que l'annonce des États-Unis ne devait pas troubler la fête, mais les droits de douane de 39% étaient bien sûr dans tous les esprits et dans les discours. Interrogée pendant les célébrations, la présidente n'a d'ailleurs pas masqué sa déception.
J'ai parlé au président hier soir. Pour lui, il n'y a qu'un aspect qui compte, c'est le déficit commercial. Alors, pour lui, dans son interprétation, les États-Unis font une perte de presque 40 milliards par année qui est causée par la Suisse. À mon avis, c'est absurde, parce que si vous regardez aussi donc les échanges avec les services, c'est presque équilibré. Et pour lui, c'est ça qui est important, parce qu'il a l'impression que c'est de l'argent, enfin, je simplifie un peu, c'est de l'argent qui est volé aux États-Unis. Alors, c'est que ça qui l'intéresse. Et puis, c'est vraiment très dommage parce que l'accord qu'on avait négocié était quand même plus global et puis qu'il considérait aussi des investissements aux États-Unis.
Des propos recueillis par Romain Carupt. Le ministre de l'Économie, Guy Parmelin, pour sa part estimé que la Suisse a été spécialement maltraitée dans ce dossier. Ces taxes douanières ont provoqué une onde de choc dans les milieux économiques helvétiques, mais aussi dans le monde. Car outre la Suisse, ce sont des dizaines de pays qui se sont retrouvés sans accord commercial avec Washington, alors qu'à l'origine, le président américain avait promis 90 accords en 90 jours, l'Umnanaki.
Comme toujours avec Donald Trump, lorsqu'il s'agit de résultats ou d'objectifs chiffrés, la réalité est souvent bien en deçà des déclarations du président. En arrivant à la Maison-Blanche, il avait effectivement promis de signer des accords commerciaux avec 90 pays en 90 jours. Mais très vite, face aux négociations qui durent et l'immensité de la tâche, la Maison-Blanche avait commencé à revoir ses ambitions à la baisse. Il y a 200 pays, on ne peut pas discuter avec tout le monde, avait ainsi déclaré Donald Trump lors d'une interview. Au final, le compteur affiche tout juste cet accord. Selon certains observateurs, cela serait dû en partie au fait que Donald Trump a continué à refuser les propositions d'accord de nombreux pays, s'enfermant dans le fait que ce n'était pas exactement ce qu'il voulait. C'est notamment ce qui s'est passé avec la Suisse qui avait mis une proposition sur la table et offert de nombreuses concessions en vain. Donald Trump s'est aussi retrouvé pris au piège de la date butoir qu'il avait lui-même imposée, ne pouvant plus reculer après avoir déjà repoussé l'échéance. Loubnanaki, RTS, New York.
Et la Californie et une quinzaine d'États démocrates ont l'intention de poursuivre l'administration Trump en justice. Ils contestent sa tentative d'interdire aux professionnels de santé de fournir des traitements de transition aux mineurs transgenres. Le sujet provoque une profonde crispation aux États-Unis. Lors de son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump avait promis d'en finir avec, je cite, « le délire transgenre » et il a notamment signé un décret assimilant ces traitements à une mutilation. Plus d'un million de jeunes catholiques du monde entier sont attendus aujourd'hui à Rome pour participer à une veillée de prières géante avec Léon XIV qui doit arriver en hélicoptère avant un bain de foule en papamobile. Les pèlerins passeront ensuite la nuit sur une esplanade d'une centaine d'hectares où ont été installés des écrans géants jusqu'à la grande messe de clôture présidée par le pape américain demain matin. L'organisation de cet événement a constitué un défi logistique hors norme pour les autorités avec quelques 10 000 policiers et agents de la protection civile mobilisée. Il s'agit du point d'orgue du jubilé année sainte de l'Église catholique célébré tous les 25 ans. En 2000, la manifestation avait attiré plus de 2 millions de jeunes. En Indonésie, le volcan Lewotobi Laki-Laki est entré en éruption. Il a envoyé une colonne massive de cendres s'élevant jusqu'à 18 km d'altitude, selon l'agence géologique indonésienne. L'éruption a eu lieu à 1h du matin, heure locale, 19h hier, en Suisse, sur l'île orientale de Flores, dans la province de Nusa Tenggara orientale. En sport, en natation d'abord, pas de médaille pour Roman Miyukov sur les 200 mètres d'eau au championnat du monde à Singapour. Le jeune voix a terminé 7e de la finale remportée par le Hongrois Hubert Koss. Il n'était pas dans un bon jour.
C'est compliqué. Je me sentais fatigué. À 150 mètres, j'étais cuit. J'ai essayé de tout donner à la fin, mais je sentais que j'avais vraiment pas d'énergie. J'avais plus d'énergie. C'est dommage, mais voilà, ça me donne de la motivation pour la suite. J'ai fait mon record suisse hier. Ça veut dire que je suis encore en train de progresser. Maintenant, je vais voir avec l'entraîneur ce qui s'est pas bien passé. Et faut passer à la suite.
Des propos recueillis par Bernardin Alemann. Et cet après-midi, le Tessinois Noé Ponti, meilleur temps des demi-finales, va tenter de décrocher une médaille sur le 100 mètres papillon. En tennis, Belinda Bencic a été stoppée en 16e de finale du championnat de Montréal. Hier, la championne olympique de Tokyo 2021 s'est inclinée 6-7, 6-2, 6-3 devant la Tchèque Karolina Muchova. En football, le Stade Nyonnais a décroché hier soir sa première victoire de la saison en Challenge League. Les Vaudois se sont imposés 1-0 à domicile contre le FC Rapperswil. Et dans l'autre match de la soirée, Aro est allé gagner 3-1 à Ville. Un mot de la météo. Aujourd'hui, le temps sera nuageux avec des averses en début de journée, puis davantage de soleil avec encore des averses éparses dans le courant de la matinée sur le plateau. Avec quelques averses isolées jusqu'en début de soirée, il fera de 14 à 23 degrés. Et demain dimanche, le temps sera bien ensoleillé malgré des voiles nuageux. Il fera jusqu'à 23 degrés avec une faible bise sur le bassin lémanique.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Yalla ! En avant !
Bonjour, c'est Sidney Fierro. Chaque dimanche matin, je vous invite à parcourir de nouveaux horizons en quête du sacré. La musique sacrée que nous connaissons, bien sûr, celle qui nous est familière, mais aussi celle d'autres cultures, au-delà des religions. Dans Matine, on parle des grandes épopées, des petites histoires d'hommes et femmes qui cherchent la lumière. On voyage dans le monde en quête de notre humanité, le tout en musique, bien sûr. Matine, c'est tous les dimanches de 7h à 9h sur RTS Espace 2.
Du bon pied, Marin Piguet.
Du bon pied dans son édition du samedi 2 août 2025. Vous avez choisi RTS Espace 2 pour vous lever du bon pied. On vous en félicite et on vous en remercie surtout de passer cette matinée en votre compagnie et de nous inviter chez vous, dans votre cuisine, votre salon ou votre voiture, peut-être déjà. C'est donc une production de Delphine Torrent que cette émission du bon pied avec la programmation musicale de Mitsou Carré qui va nous emmener d'ici divers chroniques. Avec tout d'abord à 7h20 à la 1, à la 2, ce sont quelques nouvelles culturelles piochées ce matin dans la presse romande du jour. Et puis sur les coups de 8h moins quart, la chronique de notre saltin bouquiniste, l'instant littéraire. Et puis, puisque hier c'était le 1er août, eh bien je vous propose de rester encore un tout petit peu dans l'ambiance avec quelques notes patriotiques.
Là-bas, très loin,
couvert de pastel.
Un chant patriotique signé de la main de Grégoire May et que l'on entendait Grégoire May également chanter à l'instant au sein du quintet des barbus de Derrière les fagots, son chant patriotique en ce lendemain de fête nationale.
Allez, on y va, advienne que pourra.
Quelques gazouillis pour vous mettre de bonne humeur au réveil du bon pied sur RTS Espace 2 à l'instant avec cette suite pour petit orchestre Les Oiseaux de Torino Respighi ou du moins son premier mouvement, le prélude, avec à l'instant Neville Mariner à la tête de l'Academy of St. Martin in the Fields. L'Académie de Saint-Martin dans les champs pour les oiseaux, ça ne s'invente pas et c'est tout à fait à propos. Et l'on entendait tout cela dans l'enchaînement de cette troisième mélodie, extrait des cinq morceaux de Fantaisie pour piano de Sergueï Rachmaninov avec Alexandre Tarot au piano.
Du bon pied à la une, à la deux.
Les nouvelles culturelles du jour sont piochées dans la presse romande de ce matin, à commencer par le journal Le Temps, qui consacre la grande partie de son cahier du week-end aux 56e rencontres de la photographie d'Arles. Le Temps se penche sur les rétrospectives de cette édition et notamment celle dédiée à Letizia Battaglia. Quelle est l'image la plus forte de cette rétrospective que consacrent les rencontres de la photographie à la Sicilienne Letizia Battaglia, décédée en 2022? Une photo en guise de résumé, photo de course de chevaux. Au premier plan, un cheval gît sur le sol. À l'exception de Battaglia derrière son objectif, personne ne le regarde. Personne n'a de compassion pour cet animal victime innocente des joutes humaines. Tout le travail de l'Italienne est ici résumé. Elle n'aura cesse de regarder là où la majorité ne regarde pas. Parlons série désormais avec 24 heures et la Tribune de Genève. Et ce titre, The Deal, le thriller poétique de Jean-Stéphane Bron, va faire du bruit. Pour sa première série de fiction tournée à l'initiative de la RTS et dévoilée en avant-première à Locarno, le réalisateur lausannois percute l'actualité récente, celle des négociations sur le nucléaire iranien dans les années 2010. Un thriller politique qui rappelle l'excellent Carlos d'Oliver Assayas. L'ambition de venir jouer des coudes avec les meilleures productions de Netflix et consorts, un sujet étrangement actuel d'ailleurs. Bref, toutes les étoiles semblent alignées pour faire du dernier bébé de Bron une machine à succès. Quelques mots de sa part donc dans les pages de 24 heures et la tribune de Genève. Je me suis toujours intéressé aux coulisses de la politique. Je les ai beaucoup filmées avec l'idée que ces coulisses ont quelque chose à dire sur ce qu'il se passe sur la scène. Et cap sur le Jura avec cette série estivale du quotidien jurassien et du journal du Jura dans la cuisine de... Et ce matin, c'est le chef Jean-Marc Soldati, chef restaurateur à Sonsbo, qui est à l'honneur avec cet article. Papet vaudois à la tête de moine, revisité en version étoilée. Voilà qui met l'eau à la bouche. Le tout, ces têtes de moine et papet vaudois dressés en feuillantine. En choisissant la feuillantine, Jean-Marc Soldati détourne volontairement une recette que l'on retrouve plutôt en pâtisserie. Et les journaux jurassiens donnent même la recette de cette feuillantine à tête de moine AOP au poireau et à la saucisse du Grand Chasseral.
Thank you.
Wolfgang Amadeus Mozart et des extraits de son Requiem. À l'instant, le Tuba Mirum avec les solistes Sandrine Pio soprano, Werner Gura ténor, Sarah Mingardo contralto et bien sûr le baryton basse qui entame ce Tuba Mirum, Christopher Purves, avec juste avant la partie précédente, le Dies Irae, qui nous permet de nous introduire à l'ensemble instrumental que nous entendions, l'orchestre Insula, ainsi que le chœur Accentus, toutes et tous, tout ce petit monde, dirigé par Lawrence Eckelby.
puis maintenant on y va pour de vrai.
Urs Eri, auteur de cette marche militaire intitulée « Couleur » avec un S, une marche colorée donc, interprétée ici par un orchestre d'école de recrues dans les années 2000, dirigé par Robert Grob, et que l'on entendait dans l'enchaînement de cette deuxième des trois pièces de fantaisie de Robert Schumann. On aurait pu croire à un arrangement tant on l'entend souvent au violoncelle, mais c'est bien originellement pour clarinette et piano, même si Schumann a indiqué que l'on pouvait librement interpréter cette pièce à la clarinette, au violon ou au violoncelle. En l'occurrence, la clarinette, c'était celle de Richard Hosford et le piano de Ian Brown.
Oh!
Giuseppe Verdi et cet air de Rigoletto, Caro Nome, et à l'instant les coloratures de la soprano Christine Schaeffer, soutenue par Claudio Abbado et le Berliner Philharmoniker. Une pièce signée Arsène Duc, elle s'appelle Brass Evasion et l'on l'entendait à l'instant sous l'interprétation de l'ensemble de cuivre Melodia dirigé par Serge Gros. À l'écoute du Bon Pied sur RTS Espace 2, 8h moins quart, notre chronique littéraire.
RTS Espace 2, Karine Carkeny,
le saltimbouquiniste.
Ce n'est pas une histoire d'amour, mais elle contient de l'amour. Plus exactement, l'amour se tient juste au bord et cherche à s'introduire. Nous sommes ici et là, ni vraiment ici, ni vraiment là, à tournoyer comme des grains de poussière, à revendiquer notre droit à l'univers. Être important, n'être rien, être pris au piège d'une vie que l'on a fabriquée sans jamais la souhaiter. S'évader, essayer encore, se demander pourquoi le passé nous suit, se demander même comment parler du passé. Il y a une cabine à Grand Central Station où l'on peut enregistrer sa vie. On parle, ça enregistre. Un confessionnal des temps modernes, pas de prêtre, juste une voix dans le silence. Tout ce que l'on est, conservé en numérique pour le futur. Vous avez 40 minutes. Que diriez-vous donc pendant ces 40 minutes? Quelles décisions prendriez-vous sur votre lit de mort? Qu'est-ce qui, dans votre vie, serait englouti par les flots et qu'est-ce qui, tel un phare, vous rappellerait votre foyer? On nous apprend à ne pas privilégier une histoire plutôt qu'une autre. Toutes les histoires doivent être dites. Bon, c'est peut-être vrai, peut-être que toutes les histoires méritent d'être entendues. Mais toutes ne méritent pas d'être racontées. Quand je reviens sur la travée d'eau que j'appelle ma vie, je me vois là-bas, dans le phare, en compagnie de Pew, ou au roc et la fosse, ou au bord d'une falaise à trouver des fossiles qui se révèlent être d'autres formes de vie. Ma vie, sa vie, Pew, Babel Dark, tous enchaînés par la force des marées, par l'attraction de la lune, passé, présent et futur, mêlés dans la brisure d'une vague. Me voilà, je m'approchais à petits pas de la lisière de l'âge adulte et j'ai été balayé par le vent. Il était trop tard pour appeler Pew au secours, car il avait été balayé par le vent lui aussi. Il me fallait grandir seul. Ce que j'ai fait. Et les histoires que je veux vous raconter illumineront une part de ma vie et laisseront le reste dans l'ombre. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il n'y a pas de tout. Le sens, ce sont les histoires elles-mêmes. C'est le début de la deuxième partie de « Garder la flamme » de Janet Winterson. Histoire extraordinaire d'un vieux gardien de phare aveugle qui apprend à vif argent, qui n'a pas 10 ans, comment lancer de la lumière dans la nuit. J'ai reçu ce livre grâce à Benoît Desmarais, précieux ami libraire de Montréal. Je suis tombé en amour avec cette imagination incroyable et puis ce souffle comme ça qui vous prend dans la narration. Et j'ai relu Janet Winterson des années plus tard quand elle a publié « Pourquoi être heureux quand on peut être normal » dans lequel elle raconte la naissance de son tout premier livre « Les oranges ne sont pas les seuls fruits ». « Les oranges ne sont pas les seuls fruits » lui a valu le succès. Elle a pu quitter la maison dans laquelle elle avait vécu longtemps, adoptée par une mère bigote à Manchester, elle qui se rend compte assez vite qu'elle aime les femmes. Et ce que j'aime beaucoup dans « Pourquoi être heureux quand on peut être normal », au-delà de la langue, de l'imagination et de l'amour de la poésie, c'est que c'est pour moi véritablement une espèce de petit manifeste empirique du féminisme, où Janet Winterson, qui se retrouve dans la rue parce qu'elle aime les femmes, mais qu'elle aime aussi lire, va à la bibliothèque et commence à... Elle veut lire toute la littérature anglaise. Petit à petit, elle se rend compte qu'il y a peu de femmes, elle commence à se poser des questions et elle avance en mettant les adultes face à toutes leurs contradictions. Le petit passage que je vais vous lire pour finir raconte précisément sa découverte de la poésie alors qu'elle va chercher un livre pour sa mère adoptive. J'avais 16 ans et ma mère était sur le point de me mettre définitivement à la porte parce que j'avais enfreint une règle cruciale, encore plus cruciale que l'interdiction de lire des romans. La règle se résumait à sexualité interdite et surtout sexualité interdite avec une personne du même sexe. J'étais effrayée et malheureuse. Je me rappelle m'être rendue à la bibliothèque pour lui prendre ses romans à énigmes. Entre autres, elle avait réservé un certain « Meurtre dans la cathédrale » de T.S. Eliot. Elle l'avait pris pour un récit sanglant sur des moines dévoyés. Elle aimait tout ce qui égratignait l'image du pape. Le volume me paraissait un peu court. Les romans à énigmes sont plutôt longs, en général. Alors je l'ai feuilleté et j'ai vu qu'il était écrit en vers. Ça ne convenait vraiment pas. Je n'avais jamais entendu parler de T.S. Eliot. Je me disais qu'il avait peut-être un lien de parenté avec George Eliot. La bibliothécaire m'a expliqué qu'il s'agissait d'un poète américain qui avait passé presque toute sa vie en Angleterre. Il était mort en 1964 et avait reçu le prix Nobel. Je ne lisais pas de poésie parce que mon but était de venir à bout du rayon littérature anglaise en prose de A à Z. Mais là, c'était différent. J'ai lu. C'est un moment. Mais sachez qu'une autre vision vous percera d'une soudaine joie douloureuse. J'ai fondu en larmes. Les lecteurs ont levé les yeux vers moi avec un air de reproche et la bibliothécaire m'a réprimandé parce qu'à cette époque, on ne devait pas éternuer dans une bibliothèque et encore moins pleurer. Alors je suis sorti avec le livre et l'ai lu en entier assis sur les marches du bâtiment, exposé aux habituelles bourrasques du vent du Nord. Cette pièce de théâtre inconnue et merveilleuse a rendu la situation supportable ce jour-là, et ce qu'elle rendait supportable était un second rattache familial, Le premier n'était pas ma faute, même si tous les enfants adoptés se sentent coupables. J'étais sans aucun doute responsable du second. J'étais déboussolé en matière de sexe et de sexualité, et des problèmes aussi concrets que savoir où vivre, comment me nourrir et passer mon bac m'angoissaient. Je n'avais personne sur qui compter, mais T.S. Eliot m'a aidé. Du coup, quand les gens disent que la poésie est un luxe, qu'elle est optionnelle, qu'elle s'adresse aux classes moyennes instruites ou qu'elle ne devrait pas être étudiée à l'école parce qu'elle n'est pas pertinente ou tout autre argument étrange et stupide que l'on entend sur la poésie et la place qu'elle occupe dans notre vie, j'imagine que ces gens ont la vie facile. Une vie difficile a besoin d'un langage difficile, et c'est ce qu'offre la poésie. C'est ce que propose la littérature, un langage assez puissant pour la décrire. Ce n'est pas un lieu où se cacher, c'est un lieu de découverte.
Une porte entr'ouverte, la lumière et les bruits, doux des soirs de décembre, et les restes de cendres, le cœur couvert de suie. J'ai plongé dans mes rêves, d'émotions oubliées, mais ne reste que cendre et la beauté qui tremble, pourquoi courir après? Vois le vide entre nous et nous, vois le naufrage, une ellipse, un mirage. Un parfum bon marché, en passant monte en larmes, parce que les soirs d'été, c'est ce que tu portais, te souviens-tu, mon âme? Vois le vide entre nous et nous, vois le naufrage, une ellipse, un mirage. Une porte entr'ouverte, la lumière et les bruits d'eau des soirs de décembre, et les restes de cendres, le cœur couvert de suie. J'ai plongé dans mes rêves, d'émotions oubliées, mais ne reste que cendres, et la beauté qui tremble, pourquoi courir après? Vois le vide entre nous et nous, vois le naufrage, une ellipse, mirage.
La vie de l'homme est-elle autre chose qu'un rêve?
Thank you.
Pablo de Saraste est la première de ces danses espagnoles. Milana Czerniewska, piano, et Julia Fischer, violon. Du Bon Pied, c'est une production de Delphine Torrance et qui connaît à chaque heure un rendez-vous important, c'est le Flash Info. Merci d'être à l'écoute d'RTS Espace 2, il est 8h.